au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, heureux de nous savoir présents chez vous et de vous savoir là avec notre invité de la semaine. Une grande dame, une véritable personnalité qui a marqué son époque. Au gré du temps, patiemment, mais avec constance, elle a su participer à l'éveil de cette moitié du monde qui cherchait à transformer le regard de l'autre moitié du monde. De 1964 à 1977, elle fera plus de 3000 émissions à la télévision de Radio-Canada, interrogeant des femmes œuvrant dans différentes sphères d'activité avec qui elle aborde tous les sujets, y compris ceux qui semblaient jusque-là réservés à la gente masculine. Un carrefour d'idées, de remises en question et de réflexions. Cette émission, vous l'aurez sans nul doute reconnue, c'était « Femmes d'aujourd'hui ». Un grand bonheur que d'accueillir cette femme aujourd'hui, Madame Aline Desjardins. Bonjour, Madame Desjardins.
Bonjour à vous.
Effectivement.
Et aux auditeurs.
Oui, bien sûr. Comme je le disais, effectivement, vous avez marqué votre époque avec cette émission.
Oui, eh bien, nous étions une équipe. Je tiens toujours à le souligner, ce n'est pas le travail d'une personne, même si j'étais là quotidiennement, une heure chaque jour. Ce qui fait que j'ai été très identifiée, évidemment, à l'émission elle-même. Mais nous étions nombreuses à travailler, nombreux à travailler sur cette émission. Effectivement, c'était une émission qui, pour moi, est une émission phare dans toute la télévision de cette époque-là, tout au moins.
Vous dites une émission phare parce que nous étions justement dans la mouvance de la transformation sociale et vous étiez là, présente, à tous les jours de la semaine, pour expliquer et bien souvent pour devancer aussi ce qui se faisait au plan politique.
Oui. Et il faut se rappeler qu'en 70, par exemple, il y avait 3,5 millions de femmes qui travaillaient à la maison.
Mm-hmm.
Alors ça, c'était notre bassin de population, notre cible. Et ces femmes-là, la première réflexion qu'elles ont dite, c'est « enfin, on ne se sent plus seul ». Et pour moi, ça, c'était un compliment extraordinaire d'entendre ça. Parce que c'était l'objectif même de l'émission, c'était de rejoindre les femmes. C'était l'après-midi, donc, pour rappeler pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, en 3h et 4h parfois, de 2 à 3 parfois aussi. Et c'était une émission extrêmement éclectique. On ne voit plus ce type d'émission. On ne voit pas ça du tout maintenant. On pouvait recevoir, par exemple, une Marie-Claire Blais, Anne Hébert, on pouvait faire un extrait de théâtre, mais en même temps, on pouvait parler d'avortement, de contraception, de violence familiale et des droits des femmes aussi.
Oui, en fouillant même sur les archives de Radio-Canada, ce que j'ai fait au cours des derniers jours, on constate, vous dites que c'était éclectique, les sujets très variés que vous abordiez, ce pouvait être, par exemple, la préparation d'une fête d'enfants avec Mme Nicole Germain au
tout
début.
Mais ça, je dois dire que c'était les débuts de l'émission Femmes d'aujourd'hui. Quand j'y suis arrivée, et on faisait de la danse. Il y avait même un curé qui venait parler des relations familiales. Des choses comme ça, et du tricot.
Oui.
Alors, graduellement, et très vite d'ailleurs, les sujets sont devenus plus des sujets sociopolitiques.
Et voilà, nous sommes en 1970, et vous êtes l'émission phare qui, effectivement, va décortiquer le rapport Bird, un rapport très important.
Tout à fait. Le rapport Bird, on l'a décortiqué, puis on l'a décortiqué avec les gens des régions aussi. Mais vous dire que ça a fait bouger beaucoup de choses, je ne dirais pas. Vous savez, les rapports, ce qu'on en fait au Québec et à Ottawa, c'est souvent peine perdue. Si beaucoup d'énergie pour pas grand-chose.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une commission d'enquête royale.
Sur la situation de la femme.
Qui avait été initiée par Lester B. Pearson en 1967.
Et auquel Monique Bégin a contribué d'une façon très étroite.
Et dans lequel rapport il y avait plus de 160 recommandations sur la situation des femmes.
Parce que il faut quand même se rappeler qu'on partait de très loin. Écoutez, on avait les femmes avaient l'incapacité juridique. Quand c'est seulement en 70 qu'elles ont pu signer un contrat, acheter une maison. Des choses aussi fondamentales qu'on maintenant, ça nous paraît ridicule.
On a l'impression que ça a toujours existé, mais loin de là.
Mais oui, une femme arrivait à la banque et il disait, bien, revenez avec votre mari. Écoutez, on n'est quand même pas il y a deux siècles, hein? Ça veut dire que c'est très syncopé aussi l'évolution, mais on y a contribué.
Oui, voilà. Et tout cela, femmes d'aujourd'hui, se retrouvaient au cœur de cette action, de cette transformation quotidiennement.
Oui. Et nous avions souvent aussi des femmes qui étaient chez elles et qui venaient nous parler de leur vie quotidienne aussi. Et parfois, on allait les voir. Non, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'échanges. C'était une sorte de symbiose entre ces femmes qui travaillaient à la maison et le contenu de nos émissions.
Nous allons pouvoir poursuivre sur ce thème de femmes d'aujourd'hui. Vous nous avez aussi apporté de la belle musique. La première, c'est aussi une femme de grand talent, une voix inoubliable. C'est celle de Maria Callas.
Maria Callas, que j'adore. Et ça me rappelle aussi une pièce extraordinaire où Patricia Nolin jouait le personnage de Maria Callas. Elle était sublime. Et c'est une comédienne dont je m'ennuie beaucoup. Mais Maria Callas, Dieu merci, elle est sur disque.
Alors, nous l'écoutons.
Thank you.
de retour avec Madame Aline Desjardins. Madame Desjardins, cette émission Femmes d'aujourd'hui, bien sûr, on vous y associe, mais il y a eu beaucoup d'animateurs qui vous ont précédé ou qui vous ont succédé, je ne sais plus. Je pense par exemple à Yolande Guérard.
Yolande Guérard co-animait avec moi.
Oui, oui. Madame Lisette Gervais.
Elle était avec Yolande avant que je n'arrive dans le décor, si je puis dire.
D'accord.
Elle a quitté et moi je suis arrivée parce que j'étais venue durant l'été remplacer Madame Tisser à deux reprises, deux étés, pendant qu'elle prenait ses vacances. Je la remplaçais à l'émission Aujourd'hui, qui est un autre grand magazine d'information, et je co-animais avec Wilfrid Lemoine, décédé malheureusement.
Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez commencé votre carrière à Radio-Canada?
À Radio-Canada, Québec. J'étais déjà là où je faisais une émission d'information. Et quand je suis venue ici, la chef de service, Michèle Lanier, m'a vue à l'antenne et elle m'a demandé pour faire Femme d'aujourd'hui. Et moi, j'ai dit oui d'emblée parce que je trouvais que c'était une émission géniale.
Oui, une aventure qui a duré plus de 10 ans, 13 ans, je
13
crois.
13 ans.
On parlait évidemment de cette équipe formidable qui vous entourait. Je mentionnais quelques noms. Je pense à d'autres personnes comme Louise Arcan.
Oui, brièvement.
France Labbé, Michel Pérus. Une équipe de journalistes et de chroniqueurs.
Et de recherchistes. André Thibault, qui était la plus féministe, je pense, de notre groupe. Nadia Ralem, qui était une Algérienne, qui avait une autre vision des choses. Henriette Major, qui écrivait aussi des livres pour enfants. Enfin, il y avait énormément de collaborateurs, surtout un peu plus tard dans l'émission. Au début, j'étais souvent seule dans le décor.
Est-ce que ça a été difficile de se retrouver campé dans un rôle qui devenait à la longue, très stéréotypé. Vous savez ce qui se disait sur Femmes d'aujourd'hui par un certain nombre d'hommes qui considéraient que c'était le bastion des féministes, que c'était, bon, que vous étiez un peu la chef de tout ce mouvement.
Non, mais ce qu'ils croyaient, surtout certains hommes qui étaient de mauvaise foi, je pense, ils croyaient que je faisais sortir les femmes de leur maison. Et ils ne voulaient pas que les femmes retournent sur le marché du travail, ce que voulaient les femmes.
Oui.
Et la preuve, c'est que quand j'ai quitté parce que les femmes à qui je m'adressais étaient rendues sur le marché du travail.
Le mouvement était là. Tout était en place pour cette transformation sociale.
Oui. Oui, c'était le bon moment. Être là au bon moment, c'est très important en télévision.
Mais vous faisiez quand même preuve d'une transformation au sein même de la diffusion publique. Vous étiez des pionniers dans votre domaine.
Je ne sais pas si rétrospectivement on peut dire les choses comme ça. Moi, ce que j'aimais personnellement de cette émission, c'était la diversité des sujets.
Oui.
Et l'évolution de la société à l'intérieur de ça.
Mais la réflexion aussi.
Oui, oui, parce qu'on a eu des grands penseurs aussi qui sont passés à l'émission.
Oui, on pense, par exemple, lorsque vous vous êtes attardé sur les lendemains du refus global, quelques années après, 10 ou 15 ou 20 ans plus tard, vous avez interrogé des gens comme Margaret Atwood.
Moi, Marguerite Duras et bien d'autres écrivains, écrivaines à travers le monde. Dans le fond, on est allé à Londres pour Germaine Greer, à Paris, Marguerite Duras et bien d'autres. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est une émission où les arts étaient importants. On passait presque tous les peintres, Marcel Maltais, Marcel Ferron, Lise Gervais, et tous les peintres, et les peintres qui passaient. Et je pense à Calder, par exemple. Ça, ce n'est pas beaucoup repris à la télévision. Quand est-ce qu'on voit, à moins qu'il y ait une exposition dans un musée, on voit peu les artistes qui font de la peinture ou de la sculpture, on les voit peu.
Alors, nous pourrons poursuivre sur ce qu'est devenu, selon vous, cette télévision que vous avez connue il y a déjà de cela quelques années, mais auparavant, cette belle chanson de Léo Ferré.
Oh, que j'adore, qui pour moi est correspond à une époque charnière de ma vie.
Pauvre Rudebeuf.
Je l'adore.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. ami que vent emporte. Et il vantait devant ma porte les emportants. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille et qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Amis devenus que j'avais de si prétenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est à venir. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire et pauvre rente. Et droit au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et il ventait devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Vous êtes à l'antenne de Radio Ville-Marie, avec nous aujourd'hui à l'émission Au gré du temps, Mme Aline Desjardins, autrefois animatrice de Femmes d'aujourd'hui. Quand vous réfléchissez un peu à cette époque et que vous regardez le constat que vous en faites de cette télévision, de ce qu'elle est devenue, est-il plus ou moins sombre ou plus ou moins rose?
Une grande question, hein, parce que c'est difficile de faire une analyse objective, j'allais dire, en tout cas, des choses qui se passent. Moi, personnellement, je trouve qu'il y aurait encore de la place pour un grand magazine comme celui-là, mais axé de façon différente, qui passerait le soir. Moi, si l'émission était... On avait décidé de la passer le soir, je serais restée à l'émission. Mm-hmm. Parce que je trouve que ce genre d'émission-là, avec ce contenu-là, est plus... maintenant, rejoint plus de personnes le soir.
Trouvez-vous que nous mettons davantage aujourd'hui l'accent sur l'instantanéité des événements plutôt que sur la réflexion à l'égard de tous ces événements qui nous assaillent quotidiennement?
Ben, il y a quand même des grandes émissions, à Radio-Canada en particulier. Je pense à Jean-François Lépine, des choses comme ça. Et il y a quand même des choses. Mais moi, ce que je regrette un peu, c'est la détérioration de la langue.
Oui.
Je trouve que... à ce chapitre, il y a énormément de laisser-aller. Et j'écoutais encore récemment les jeunes filles qui font de la critique artistique. Elles parlent à des vitesses carabinées. On ne comprend rien de ce qu'elles racontent. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais c'est à une vitesse incroyable, difficile à suivre. Et ça, évidemment, ça ne permet pas la réflexion non plus. Hein.
Vous êtes allé à la dure école, à l'époque où les annonceurs, par exemple, devaient suivre, comment dire, le livre ou à tout le moins la formation de la maison.
C'était Miville Couture, oui, dans le temps, qui était le chef à Radio-Canada pour les annonceurs. C'était pas simple de passer une audition.
Vous avez un souvenir impérissable de cette époque?
Oh, tout à fait.
Oui.
Oui, oui, oui.
C'était comme à la petite école?
Non, c'est plus que ça. C'est oui, plus difficile que ça.
Oui. Oui. Cependant, tout cela permettait quand même d'avoir, une fois cette formation bien, bien apprise, d'avoir des outils qui nous servent pour le reste de la vie.
Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment appris sur le tas. J'étais, par exemple, à la console et je m'occupais de mon micro et je m'occupais de 4 ampex dans le temps. Il y avait 4 et 2 tables tournantes. Alors, il fallait faire passer les disques, il fallait faire passer les commerciaux qui étaient sur les 4 ampex chaque côté. Alors, il fallait les arrêter. Si ça se cassait, il fallait mettre Charlie Coons, puis là, réparer le truc soi-même.
Oui.
Alors, j'ai vraiment commencé comme ça, moi, à la radio à Montmagny. Je faisais tout, tout. J'ouvrais la station et je m'assoyais derrière et je faisais tout.
C'est l'époque où on travaillait même parfois avec une lame de rasoir pour oui, couper les rubans.
Oui, oui. Ah oh non, c'était à la dure d'une certaine façon, mais je ne regrette pas parce qu'ensuite, on peut juger du travail des autres.
Voilà. Madame Desjardins, vous n'avez pas que travaillé à Femmes d'aujourd'hui. Il y a une émission par la suite que vous avez animée et qui, pour vous, a eu quand même une bonne, vous a laissé une bonne impression, je pense, à Repère.
Oui, Repère, c'était une émission exceptionnelle avec un groupe de journalistes exceptionnels. Je la co-animais avec Gérard-Marie Boivin et il n'était pas collé à l'actualité. On ne regardait pas qu'est-ce qui s'est passé hier, qui est-ce qu'on pourrait avoir pour analyser telle chose. On avait des sujets intemporels. Par exemple, l'éthique en médecine, en matière médicale. Bon, par exemple, François Stanton, qui était journaliste avec nous, demandait à un médecin comment il avait fait pour laisser vivre une enfant qui était multi-handicapée, mais pas un peu, là, multi-handicapée. Alors, la mère ne voulait pas. Elle voulait qu'il la débranche. Et le médecin était indien, je pense, en tout cas, peu importe. Il a décidé de la laisser vivre, de la faire vivre. Et elle était furieuse, puis ils ont passé leur vie ensuite à s'occuper de cet enfant. Alors ça, c'était le genre de sujet, on ne peut pas dire que c'était dans l'actualité.
Absolument
personne
pas
n'en aurait parlé si nous n'en avions pas parlé. Alors Repère était justement une émission qui avait cette ampleur-là. Et moi, j'adorais cette émission.
Alors encore une fois, vous ouvriez des voies d'analyse. Oui. Et de réflexion qui n'était pas très présente.
Non, tout à fait.
Avant de terminer cette première demi-heure, nous avons une pièce que nous avons sélectionnée pour vous parce que vous aimez beaucoup le piano, les œuvres pianistiques et particulièrement probablement Alain Lefebvre.
Beaucoup.
Alors
beaucoup.
Alain Lefebvre nous interprète une très courte pièce qui a pour nom Bagatelle, dont le compositeur est ce Canadien qui a pour nom André Mathieu.
André Mathieu, ma mère me parlait d'André Mathieu qu'elle adorait. Elle aimait les pianistes aussi.